Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aborder la question de le thème d'une construction d'une conscience politique chez les élèves telle que on peut les lire dans le corpus d'enquête. Alors pourquoi ce concept de conscience politique qui vient compléter celui de conscience historique qui est très présent chez les historiens et en particulier dans les travaux de Jocelyn Letourneau? Eh bien parce que si on définit brièvement les deux concepts, conscience historique et conscience politique, on peut considérer que la conscience historique, dont témoignent d'ailleurs tes enquêtés, Jocelyn, témoigne d'une compréhension active du passé, et on pourrait définir la conscience historique comme l'assimilation et l'appropriation du passé. Alors, qu'ajoute la notion de conscience politique à la notion de conscience historique? Eh bien, cette idée, probablement, je définis les choses un peu ordinairement, hein, que le sujet qui témoigne d'une conscience politique est capable d'une réflexivité critique sur le présent, et c'est un sujet qui se pense lui-même dans un processus historique pour y trouver éventuellement son rôle et son action. Alors, pourquoi aborder le corpus sous l'angle de la conscience politique? Pour une raison simple, c'est que finalement, dans l'enseignement de l'histoire, la place de l'éducation politique est très présente depuis la fin du 19e en France. C'est une tradition française. J'en donne quelques exemples pour recontextualiser. Une conférence de Charles Seignobos en 1907, qui est bien connue, où il explique que le rôle de l'enseignement de l'histoire, c'est évidemment de préparer les élèves à comprendre le monde où ils vont vivre, de les préparer à s'y intéresser et d'y être prêts à agir. Et Antoine Prost, en 84, reprenant cette conférence et la reprenant à son compte, la commente et la déplace légèrement sur le plan sémantique en disant que, effectivement, l'enseignement de l'histoire a pour but de permettre aux jeunes générations d'accueillir le changement social et de participer à son infléchissement en donnant les moyens de le comprendre. Donc c'est une tradition française. J'en donne deux autres exemples. En 1905, au congrès des amicales d'instituteurs, les syndicalistes demandent que l'étude de l'histoire soit impartiale, ce qui ne veut pas dire pour eux refroidie. Au contraire, ils expliquent, ça nous emmènerait trop loin, qu'il faut donner toute sa place aux questions controversées, mais sans les trancher. Et tout ça dans le même but, préparer des citoyens réflexifs et critiques, hein, puisque la connaissance du présent importe à la conduite de l'individu dans l'État et du citoyen dans une nation démocratique. Donc c'est une constante qui trouve évidemment des points d'exacerbation dans des moments très critiques. Je donne un exemple. Lavisse, dans la dernière édition de son Histoire de France court moyen, après avoir exposé la Première Guerre mondiale, développe des réflexions personnelles et explique aux jeunes élèves qu'ils sont les citoyens d'un pays libre et glorieux, qu'ils peuvent en être fiers, mais qu'ils doivent cette liberté et cette gloire au sacrifice de leurs pères et de leurs frères, et que par conséquent, ils en ont une dette sacrée, dont ils ne pourront jamais s'acquitter probablement, mais dont Lavisse demande qu'ils s'acquittent en se dévouant corps et âme au relèvement de la France. Autrement dit, on a des exemples constants de ce que l'enseignement de l'histoire vise traditionnellement, la formation d'une conscience politique des jeunes Français. Alors c'est à partir de ce cadre que j'ai essayé de lire le corpus, et j'ai relevé, quatre grandes catégories de représentation de l'histoire, du passé, du présent. On pourrait dire quatre grands régimes de représentation historique. Le passé glorieux en héritage, un présent qui conclut et clôt le passé, un devoir mémoriel et enfin une interrogation pour le présent. Disons tout de suite que les trois premières catégories sont extrêmement présentes dans le corpus, la dernière extrêmement rare, mais je l'évoquerai tout de même. Alors, un passé glorieux en héritage, je donne quelques exemples. Alors évidemment, je vais vous donner des extraits du corpus, hein. On ne peut pas tout lire, donc j'ai mis en gras les passages sur lesquels je vais m'arrêter, sur lesquels je vais insister. Un exemple assez caractéristique, cet élève qualifie la France de pays magnifique parce que c'est un pays démocratique qui s'est construit par des sacrifices, des guerres, une révolution, qui a toujours su dans l'adversité garder la tête haute, mais qui s'est relevé toujours et ça l'a rendu plus forte. On a là vraiment peut-être l'archétype du roman national, et ça entraîne des positions qui sont récurrentes dans le corpus, l'idée de la fierté, de la gloire et des grands hommes, des grandes victoires, dont il est toujours dit en conclusion, en fin de fiche, hein, que elles ont permis de construire le pays. Au fond, et c'est ça que je vais essayer de montrer, le présent ramasse toujours une construction glorieuse. Autre exemple qui induit l'idée de modèle, hein, la France serait un modèle pour de nombreux pays parce qu'elle a construit, pense cet élève, les droits de l'homme et du citoyen, et on vit maintenant égaux dans un pays apaisé. D'ailleurs, je pense à l'idée du bonheur dont tu parlais tout à l'heure, et je n'y ai pas pensé tout de suite, mais on va voir que régulièrement les élèves disent qu'ils vivent désormais dans un pays apaisé. Alors, dernier exemple, cette idée d'un passé glorieux amène à d'autres prises de position qui témoignent, à mon avis, d'une conscience politique sur laquelle je ne porte aucun jugement de valeur, évidemment. À un moment donné, cet élève dit, grâce aux générations d'avant qui se sont battues, nous sommes dans un pays libre, mais il existe des personnes dangereuses qui peuvent tout changer. Le propos, évidemment, est allusif, hein, on pourrait l'interpréter. Mais c'est l'idée que si on a un passé glorieux en héritage, évidemment, on va devoir le préserver. Alors, la grandeur de la France, qui est ici menacée aussi dans une lutte internationale, alors je passe un peu vite, notre pays maintenant qui règne, qui est dans la paix, s'affaiblit. Donc il y aurait l'idée qu'il y a eu un passé glorieux, mais qu'il est menacé. Hein, on trouve ça aussi dans le corpus. Je fais une analyse rapide de cette première représentation. On a l'impression que le lien avec le passé et sous la forme d'une tradition et d'une dette, pour reprendre le mot de Lavis, hein, relative à des conquêtes antérieures. Hein. C'est ça que je tire de cette première représentation. Les élèves se sentent en quelque sorte les garants de conquêtes antérieures qui forment la richesse de la République et de la nation française. Mais évidemment, ils ont une conscience politique en quelque sorte assujettie à un passé, enfermée dans un héritage clos, d'une certaine manière, hein, ils ne disent rien de ce qu'ils pourraient inventer à partir de cet héritage. Autrement dit, cette clôture semble écarter toute discussion sur le sens de ce régime démocratique républicain qu'il s'agit de préserver. Dans la suite de cette représentation historique, les représentations qui voient le présent comme une conclusion et une clôture du passé. Alors, un exemple. Souvent, alors beaucoup de textes, beaucoup de fiches présentent des éléments historiques sur lesquels je ne m'attarde pas et concluent en parlant du présent. Et souvent, c'est pour dire quelque chose qui est ici formulé de façon extrêmement forte. Nous sommes loin de toute cette quête politique qui a formé la France. Nous sommes maintenant dans un pays de liberté où les hommes, nous sommes loin de cette France sans liberté où les hommes se battaient pour revendiquer leurs droits. Autrement dit, là, effectivement, la conquête est close, elle est terminée. Hein. Autre exemple, c'est grâce à cette histoire que nous sommes tous ici en quelque sorte libres. Nous ne savons pas dans quelles conditions nous serions s'il n'y avait pas eu toute cette histoire impressionnante. Là, il y a une représentation d'autres possibles dans le passé, mais toujours sous la logique du pire, c'est-à-dire que on a échappé au pire. Hein. Et donc la France s'est toujours construite positivement. Autrement dit, la France apparaît à ses élèves comme un parcours qui s'est construit dans l'adversité, mais toutes les étapes, alors la révolution, les guerres, la résistance, etc., tous les obstacles ont été surmontés et on aboutit à une conquête qui ne semble pas avoir d'avenir. Enfin, c'est un peu ce qui transparaît du corpus. Aussi cette formule, la France est un pays qui s'est cherché, et apparemment un pays qui s'est trouvé. Hein, donc, aujourd'hui, nous sommes dans la Ve République et ce régime est installé depuis longtemps, et donc maintenant stable. Alors, ça c'est un point très important sur lequel je ne m'attarde pas, mais qui est très important. Beaucoup de fiches se terminent par le président de la République française, hein, qui est le point d'aboutissement de l'histoire de la République et du pays. Alors, j'ai donné quelques phrases qui sont toujours les dernières phrases des fiches. Hein. Les présidents se succèdent jusqu'à aujourd'hui, et puis il y a un président. Depuis ce jour, il y a un président. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais juste une remarque. Alors là, c'est le seul point quantitatif de mon exposé. Le terme président apparaît autour de 700 fois. À vérifier, j'ai sans doute mal compté, entre 600 et 800. Et Parlement, Assemblée nationale, Sénat, vous voyez, de façon minoritaire. Autrement dit, il y a une limitation de la représentation de la France politique à un régime où la démocratie est réduite à l'élection du président de la République, et il y a très peu de choses sur la dimension parlementaire de cette démocratie. On pourrait voir là une sorte de fermeture dans le récit qui est dans la continuité de l'histoire des grands hommes. D'ailleurs, j'en ai pas donné d'exemple, mais beaucoup de fiches présentent l'histoire comme l'histoire des grands hommes. Troisième catégorie, le devoir mémoriel. Je vais aller assez vite parce que c'est très connu et c'est une illustration qu'on peut facilement saisir. Ici, la conscience politique s'exprime sous la forme d'un devoir de rappeler que des hommes se sont sacrifiés pour nous, pour la France d'aujourd'hui. Il faut prendre exemple sur ces hommes, dit cet élève. Je remercie ces hommes qui ont écrit cette histoire. J'espère une chose, ne pas revivre ce qu'ils ont vécu. La conscience politique est ici résorbée en quelque sorte dans un devoir de mémoire qui tient lieu précisément de conscience politique et d'action politique, hein, puisque la commémoration, la logique mémorielle est ce qui est préconisé par cet élève. J'en donne un autre exemple, évidemment. Il faut raconter aux enfants pour ne pas qu'ils soient des nazis, etc. Alors, il ne s'agit pas, évidemment pas de contester la légitimité de ce souci politique des élèves, mais de remarquer que l'élève qui a reçu cette injonction mémorielle ne se donne dans son récit qu'un seul rôle, qui est celui de la transmission d'un héritage, encore une fois. C'est la même logique dans les trois premières catégories, d'une certaine façon. Le passé est présenté par les élèves, certes, comme une ressource, hein, mais une ressource qui sert moins à l'interrogation sur le présent ou à la compréhension des difficultés du présent que à la détermination des bonnes conduites politiques dans le présent. Hein. Quelle que soit la légitimité, encore une fois, de ces conduites dont je ne discute pas. Hein. Dernière catégorie, la plus rare, je l'ai dit, une interrogation pour le présent. Il y a très peu, alors il y a peut-être un biais sur lequel je reviendrai dans la conclusion, il y a très peu de textes, je ne dis pas toujours de récits, mais Bruno Gardier en parlera tout à l'heure, de discours, parce que tous ces discours ne sont pas des récits à proprement parler, qui évoquent la question de la responsabilité politique de l'élève dans le présent et de sa responsabilité critique. Hein. Mais il y en a quand même quelques-uns, notamment celui-ci qui dit qu'un nombre important d'hommes et de femmes ayant changé et formé ce qui est aujourd'hui notre pays, et donc on est sorti de la logique des grands hommes, l'histoire de France, c'est nous les Français qui en faisons aujourd'hui ce qu'elle sera demain. Autre exemple, c'est le peuple français qui a conduit à l'évolution du pays. L'histoire de France, c'est chaque génération qui l'écrit, nous l'écrivons encore aujourd'hui avec toutes les modifications, etc. Ce genre d'énoncé est extrêmement rare, hein, dans le corpus. Alors, j'en viens à une analyse un peu générale que je voudrais conduire de la façon suivante. Alors déjà, pour remarquer peut-être un biais, il est vrai que nous ne demandons pas, peut-être nous ne pouvons pas trouver dans ce corpus la réponse à une question que nous ne posons pas. Nous ne posons pas à ces élèves la question de savoir comment ils mobilisent leur passé, leur connaissance historique, pour se construire une conscience politique. Et peut-être qu'évidemment, si nous voulions aller dans cette direction, il faudrait mener des enquêtes qualitatives plus complexes. Pour autant, ce corpus est révélateur d'un regard, d'une conscience historique qui, quand même, se traduit à certains moments par des prises de position politique. Et donc, c'est celle-ci que j'ai essayé d'analyser. Alors, quelques remarques. Dans leur construction narrative, les élèves qui évoquent le présent ne l'évoquent que très rarement comme une étape, comme un processus en cours. Je l'ai montré, je le redis, hein, c'est un élément de ma conclusion, ou tout au moins d'une hypothèse de conclusion. Mais ils présentent le présent comme un point d'aboutissement du passé, hein, où tout le passé vient finalement se réduire et se résumer, se ramasser en quelque sorte. Et même si le thème de la crise est quelquefois évoqué, mais finalement assez peu, curieusement, hein, la tonalité largement dominante du corpus, c'est qu'il s'agit de dire, quand il s'agit de dire ce qu'il en est du présent de la France, c'est que la France aujourd'hui est à un point de résorption et d'apaisement de tous les troubles du passé. Ça peut surprendre, mais c'est ce que j'ai vu. Je mets ça évidemment en discussion avec tous les membres, notamment de l'équipe. Hein. Ce qui me paraît suggérer plusieurs hypothèses qui sont corrélées. Hein. Alors, des hypothèses que là aussi je mets en discussion. Les modes de transmission, alors je ne dis pas l'enseignement exclusivement, mais tous ces modes de transmission que nous avons pris en compte dans la construction de l'enquête, hein, qui passent aussi par les médias, les fictions, les récits parentaux, etc. Ces modes de transmission pourraient avoir tendance à refroidir les questions. Et ces modes de transmission ne montrent pas aux élèves la présence encore vivante des tensions du passé. Ou, ce sont des hypothèses, je devrais mettre des clauses de prudence plus évidentes, probablement ne mettent pas en présence les élèves les tensions vivantes du passé, ou ne prennent pas en compte le resurgissement de certains débats qui ont connu des versions antérieures et qu'on voit réapparaître dans l'actualité et dans le présent politique. Autrement dit, il me semble qu'on peut faire l'hypothèse que les modes de transmission qui ont conduit à cette réception par les élèves de l'histoire et à la façon dont ils l'ont retranscrite et reformulée, reconstruite peut-être, ces modes de transmission ne prennent pas en charge la façon dont les possibles du passé, par exemple sous la forme des controverses qui ont animé les acteurs du passé, font écho aux différents possibles qui habitent le présent. Autrement dit, les débats du passé, je dis les débats pour revenir à la question de la complexité dont parlait Jocelyn Letourneau tout à l'heure, et d'ailleurs je vais en dire un mot dans un instant, les débats du passé ne sont pas reçus par les élèves comme étant de nature à nourrir leurs interrogations sur le présent. Ou tout au moins, ils n'en témoignent pas. C'est, encore une fois, peut-être qu'il faudrait aller plus loin. Ou ces débats du passé ne leur donnent pas une profondeur, ne leur offrent pas la perspective d'une profondeur historique sur les questions actuelles. Alors, combien il me reste de temps, Jacqueline ?
7 minutes.
D'accord. Je voudrais maintenant faire une comparaison à ce point de mon analyse générale avec, non pas peut-être l'exposé de Jocelyn Letourneau, mais ses travaux, et notamment son livre qu'il a évoqué tout à l'heure. Pour la raison suivante, quand on lit le livre de Jocelyn Letourneau, on est frappé, enfin peut-être que là aussi c'est une interprétation qu'il faut discuter, par une certaine tonalité dans les récits d'élèves qui témoignent d'une conscience historique, tu l'as dit tout à l'heure. Mais cette tonalité, c'est pour moi une tonalité de perplexité. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si tu me démentiras, mais il y a beaucoup d'énoncés qui montrent que les élèves sont dans un rapport problématique à leur passé. Et il y a une perplexité, pour moi c'est la tonalité d'une dominante, peut-être que je m'avance beaucoup. Bref, les élèves québécois montrent plus de perplexité que de certitude. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de constater, et c'est ce que tu as développé à mon avis dans la deuxième partie de ton exposé, c'est que, enfin là je vais peut-être un peu trop loin, mais les élèves sont capables d'affronter une certaine complexité. Moi je pense que la perplexité dans laquelle qui caractérise leur conscience historique les prédispose peut-être plus facilement à aborder la complexité de l'histoire du Québec et son avenir. Hein. Alors que, et juste une dernière remarque là-dessus, tu as une belle formule dans un de tes écrits, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans un article, « Le passé est objectivement un espoir, dis-tu, puisqu'il fut un lieu où le changement s'est déployé. » Mais encore faut-il faire retour sur ce moment où le changement a pu se déployer dans une pluralité de possibles. Or, précisément, si je veux essayer de ramasser mon propos sur le corpus français, je dirais la chose suivante. Les élèves français pensent trouver dans l'histoire plus de réponses que de questions, plus de certitudes que de perplexités. Enfin, tout au moins, c'est la tonalité dominante que je vois dans le corpus. Au fond, qu'est-ce que la France, si je devais vraiment caricaturer hein, le corpus, qu'est-ce que la France pour un élève français ? C'est une suite d'épreuves surmontées, ce que n'est pas du tout l'histoire du Québec. Hein, puisque tu dis à un moment donné que peut-être la représentation la plus répandue, c'est que les Québécois ont manqué un certain nombre de rendez-vous avec l'histoire. Et alors là, les élèves français n'ont jamais ce sentiment, mais pas du tout, pas une seule fois. J'ai jamais vu ça dans le corpus. Là, il y a quelque chose de tout à fait éloquent, à mon avis. Bon, c'est là-dessus que je voulais arriver. S'il me reste quelques minutes, je voudrais développer un peu le point de vue de cette analyse. Au fond, le régime de représentation historique des élèves français me semble se caractériser de la façon suivante. C'est un peu comme si les élèves se sentaient dépositaires de cette grande perspective futuriste qui a marqué le deuxième régime d'historicité au sens de François Hartog, c'est-à-dire celui qui va de la du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XXe, c'est-à-dire porté par la représentation d'un futur qui nourrit la construction du présent. Et c'est un peu comme s'ils en prenaient acte à un moment où ce régime d'historicité est en train de s'évanouir sur les sables de la fin du XXe siècle, et qu'ils étaient eux-mêmes enfermés dans le troisième régime d'historicité, c'est-à-dire celui qui est le présentisme englué dans le mémoriel et le commémoratif, et que par conséquent, ils ne pouvaient porter sur le passé qu'un regard contemplatif et sur la gloire de l'histoire française. Bon, pour dire les choses un peu rapidement. D'une certaine façon, cela est cohérent. Aujourd'hui, on célèbre le passé et on en resterait donc à cette inflexible généalogie de la France, comme pour reprendre une formule de François Hartog, qui irait à partir de Michelet et Lavis jusqu'à nos jours. Mais alors du coup, et ce sera mon dernier mot, ce qui se donne comme conscience politique dans les énoncés et les récits que je vous ai montrés, ne me semble pas s'inscrire dans ce que nous avons désigné comme une conscience historique, et que tu développes bien dans ton livre, à savoir l'idée d'une assimilation et d'une appropriation critique du passé. Une véritable conscience historique suppose ce retour à une appropriation critique du passé, mais au contraire, la conscience politique, quand elle affleure dans le corpus, s'exprime sous la forme qui escamote le moment d'appropriation réflexive et critique, puisque le passé s'impose, d'une certaine façon, aux élèves français. On pourrait donc moins parler d'une conscience politique que d'adhésion à un certain nombre de causes, la cause nationale, la cause républicaine, la cause mémorielle ou d'autres, qui font sens pour les élèves, mais qui épuisent leur capacité à penser le présent. Au fond, et alors là, moi aussi, je vais essayer de faire quelques préconisations, mais pas aussi ambitieuses que les tiennes. Une véritable conscience politique me semble devoir reposer sur plusieurs convictions. D'abord, admettre que le fait que le passé est révolu, mais en comprenant en même temps en quoi il conditionne notre présent. Donc, essayer d'étouffer ou d'éteindre cette espèce de vénération du passé. Mais aussi, faire en sorte que les élèves comprennent que le passé s'est dessiné à partir d'une pluralité de possibles. C'est ça qui manque le plus, et c'est ce que tu as dit d'ailleurs, je pense aussi, si je t'ai bien compris. Et qu'il a résulté de décisions, d'actions, d'implications, de rapports de force de différents acteurs. Et que si le passé est incontournable pour penser le présent, il ne saurait d'aucune manière commander le présent et enfermer le présent. Et il me semble effectivement que ce que je vois dans le corpus laisse penser que les élèves français sont enfermés dans un présent qui contemple le passé, pour dire les choses simplement. Alors, il y a un dernier biais que j'ai pas dit. Je n'ai pas pris en compte la diversité sociale dans le corpus. J'ai parcouru les 6000 fiches et je les ai lues. Et peut-être qu'il faut, c'est parce que c'est une étape de la recherche. La question de la diversité sociale des corpus est régionale également. J'ai pas pris ça en compte. Alors, essentiellement les secondes. Essentiellement, il y a parfois des sixièmes. Voilà.